Bonjour. Alors, pour clore cette matinée, je vous propose une réflexion sur l'après, qui est aussi une manière finalement d'aborder le grand débat sur l'ampleur des bouleversements occasionnés par la grande famine. Est-ce que la grande famine a été décisive à l'échelle du 19e siècle? Et à plus long terme, de quoi a-t-on choisi de se souvenir? Alors, je vais procéder en deux temps, chronologiquement. Je reviendrai d'abord sur les héritages et les conséquences de la famine dans la deuxième moitié du 19e siècle, pour essayer d'en mesurer un peu, discuter l'impact. Et ensuite, je prolongerai en interrogeant le souvenir et les références à la famine au 20e siècle. À chaque fois, vu l'ampleur de la tâche, il s'agira d'un survol visant essentiellement à orienter les candidats dans leur préparation. Alors, premier point, Fabrice, si tu peux. Ouais. Une société donc transformée par la grande famine. Et dans un premier temps, je voudrais revenir en introduction sur rappeler les enjeux ou les termes du débat historiographique. Le débat sur l'impact de la grande famine dans l'histoire doit être replacé dans le cadre de la confrontation entre deux grands modèles interprétatifs, hein, et en nous limitant au thème qui nous intéresse ici, donc l'héritage et mémoire. On peut dire que le premier modèle d'analyse, est proposé, celui proposé par les historiens révisionnistes, a plutôt tendance à relativiser l'impact de la famine sur le cours de l'histoire, notamment sur le cours de l'histoire économique et démographique. Fabrice. Donc j'ai mis les noms. Oui. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait je faisais avancer la chose. C'est pas grave. Donc Crotty et Cullen qui ont travaillé dans les années 60 plutôt, et Roy Foster qui reprend ça dans les années 80. Alors, toujours en nous limitant au thème qui nous intéresse ici, disons que le second courant, parfois appelé post-révisionniste, mais ça pose certains problèmes, depuis les années 1990 en tout cas, considère au contraire que la Grande Famine fut un tournant cataclysmique, hein, a major watershed, notamment en histoire économique. Donc, voyez, et là, c'était les noms dès les années 80, renvoyés aux travaux de Cormac O'Grada et Joël Mauquier. Commençons donc par le premier point, économie, dans les domaines de l'économie, société, démographie. Pour chacun de ces trois domaines, les historiens des deux tendances que je viens de présenter ont eu recours à la méthode contrefactuelle pour évaluer l'importance de la famine. What if the famine had not occurred? Que se serait-il passé? Alors, dans les années 60, Crotty et Cullen affirment que même sans la crise de milieu du siècle, donc même sans la famine, la chute de la population et la hausse de l'immigration auraient de toute façon eu lieu. Mais 25 ans plus tard, Kevin O'Rourke, toujours en testant cette hypothèse contrefactuelle, conclut exactement l'inverse, lui, hein, dans un article qui s'appelle Did the Great Irish Famine Matter, en 1991. Donc, vous voyez que c'est bon. Moi, je vais surtout m'appuyer ici sur des données factuelles, qui sont notamment les études quantitatives qui ont été proposées par Cormac O'Grada dès les années 80 et d'autres ensuite, et O'Grada qui conclut notamment « The famine was a divided line », et même la grande rupture dans une histoire socio-économique et démographique de l'Irlande. Alors, premier point, les mutations de la paysannerie d'abord. On peut partir d'un constat qui est celui que le suivant. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la population irlandaise est socialement beaucoup plus homogène qu'avant la famine, et c'est une conséquence de la famine, puisqu'elle a décimé la classe nombreuse des cottiers, hein, les métayers les plus pauvres, qui ont été les premières victimes de la catastrophe. Après la famine, les paysans irlandais sont restés globalement pauvres et vulnérables en cas de mauvaise récolte, hein, mais ils sont quand même globalement moins pauvres, et notamment en raison de la moindre pression démographique, j'y reviendrai, hein. Globalement, on peut dire qu'on vit mieux dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans les campagnes irlandaises. Le bénéfice est surtout substantiel pour la catégorie des ce qu'on appelle les strong farmers, hein, qui se développent après la famine, des paysans qui sont en mesure d'exploiter des parcelles plus grandes, des parcelles plus rentables, sur lesquelles l'élevage se généralise. Pas partout, mais surtout à l'est et au centre de l'île. Quelques chiffres, quelques données. Entre 1851 et 1871, la surface des terres dédiée aux céréales baisse de 30%, tandis que celle réservée au pâturage et aux cultures fourragères augmente de 20%. Autre donnée statistique, un quart des petites exploitations a disparu pendant la famine. Et après la famine, les pratiques de subdivision des terres, hein, laissent place plutôt à la transmission de la terre occupée à un seul fils. La famine, on peut donc, je pense, dire qu'elle a largement participé à un processus de concentration des terres et de rationalisation de la production, dans un sens qui finalement répond aux attentes qui avaient été formulées par les Britanniques, mais avant la famine. Jusqu'aux années 1870-1880, cela a eu des répercussions relativement limitées, cependant, sur la propriété foncière proprement dite. Alors, certes, des landlords ont fait banqueroute pendant la famine, surtout ceux qui étaient déjà mal en point, d'ailleurs, avant, et déjà endettés avant. Certes, des terres ont changé de main, de propriétaire, on a parlé de la loi de 1849 tout à l'heure, mais globalement, en 1870, quand même, seuls 3% des paysans possèdent les terres sur lesquelles ils travaillent. Alors tout cela change après, mais je ne vais pas avoir le temps là, de développer les années 1880, les réformes qui se succèdent jusqu'en 1903. Deuxième point important, un nouveau régime démographique. Avant la famine, donc, la population ne cesse pas de croître, mais la croissance, le taux de croissance est moins élevé à partir des années 1820. Du point de vue de l'immigration, Géraldine l'a rappelé tout à l'heure, entre 1815 et 1845, avant la famine, il y a déjà environ 1 million de personnes qui avaient immigré. Alors, effectivement, avec la famine, la baisse de la population est massive. Hein, les chiffres sont connus, de 8,5 millions à 6,6 millions en quelques années. L'émigration explose, hein, avec plus de 2 millions de départs, dont près de 1,5 million vers les États-Unis entre 1845 et 1855. Et alors après la famine, et au moins jusqu'au début du XXe siècle, la population continue de décliner et l'immigration de masse se poursuit, même si elle n'atteint plus les sommets de la période de la famine. La population en 1901 est tombée à 4,5 millions, et du point de vue de l'immigration, alors si on prend les chiffres sur l'ensemble de la période de l'Union entre 1801 et 1921, l'immigration irlandaise est estimée à 8 millions, soit, si vous voulez, après la famine, c'est encore plus de 5 millions de personnes qui partent après 1855. Avec la grande famine, l'échelle a changé, hein, c'est sûr, et ensuite, une sorte de forme de tradition s'est instaurée, mais je reviens à ce que tu disais ce matin, Géraldine, des communautés, des réseaux se sont reconstitués hors d'Irlande, des chaînes migratoires se sont organisées, mais il y en avait avant, mais elles se sont renforcées, qui facilitent la migration et une vraie dynamique diasporique là, s'installe. Au total, donc, un modèle démographique unique en Europe, en tout cas à l'échelle des nations, si on compare les nations, amorcé pendant la famine, celui donc d'un déclin séculaire de la population. Et de ce point de vue-là aussi, il est clair qu'il y a bien un avant et un après grande famine. La population irlandaise représentait la moitié de celle de la Grande-Bretagne en 1801. Elle ne représente plus qu'un dixième de la population britannique en 1911. De ce fait, on peut dire que les propositions de Crotty et Cullen, assurant que la baisse de la population et la forte immigration auraient de toute façon été inévitables, vous voyez, sont finalement assez difficiles à vérifier, d'abord parce qu'elles sont fondées sur des hypothèses contrefactuelles qui ont aussi leurs faiblesses. Enfin, ce modèle s'accompagne de nouveaux comportements en partie induits, là c'est plus difficile parfois d'évaluer la chose, mais par le choc de la famine et par la peur lancinante, hein, on le disait ce matin, d'une nouvelle crise majeure. Alors, le premier nouveau comportement qui se généralise, le mariage plus tardif, hein, comme moyen de limiter la fécondité, comme moyen de limiter donc, le nombre d'enfants par foyer, par couple, même si l'âge moyen du mariage n'était pas si bas avant, hein, puisque pour les hommes, on passe de 25 ans en 1845 à 33 ans en 1914, et pour les femmes, de 21 ans à 28 ans. En même temps, on observe une baisse de la nuptialité en Irlande. Alors, les fils à qui on ne transmet pas la terre émigrent ou se marient moins. La proportion de célibataires hommes passe ainsi de 20% des hommes au début des années 40 à près de 30% à la fin des années 60. Pour la même période, pour les femmes, on passe de 18,5% à 24,5%. J'en arrive à mon deuxième point. Après la démographie, l'histoire économique et sociale, culture et religion. Là, je vais moins développer, moins de temps. Mais bon, premier point, le recul de la langue irlandaise et l'analphabétisme. Et de l'analphabétisme. Alors que la moitié de la population était encore gaélophone en 1845, je peux mettre juste après, oui. Le processus d'anglicisation était déjà engagé en 1845, et quand on parle de population gaélophone, la plupart de ces personnes étaient déjà bilingues, de fait. En tout cas, il ne subsiste plus que 23% de gaélophones 10 ans plus tard. Ici, le déclin de la langue était déjà une réalité avant la famine, mais elle a été précipitée, vraiment. Il a été précipité par la famine. Les régions et les groupes sociaux les plus touchés par la famine sont aussi les régions, l'Ouest, le Sud, rural, et les groupes, les cottagers, les paysans pauvres, qui sont les plus gaélophones aussi. Les victimes sont les plus gaélophones. Ça reste d'ailleurs après. Alors, il aurait fallu que j'aurais pu amener l'Atlas, et il y a de belles cartes là-dessus qui montrent ça, mais il est un peu lourd quand même. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui. Il faut attendre le dernier quart du XIXe siècle pour que la langue redevienne un enjeu majeur pour les nationalistes, sans que cela ait, dans un premier temps, pour effet d'enrayer le recul du gaélique, puisqu'il n'est plus que parlé que par 14% des Irlandais en 1900. En parallèle, l'analphabétisme recule de 53% en 1851 à 18% en 1891, au profit de l'anglais, qui est, on l'a dit, l'idiome de la promotion sociale. Là aussi, on revient toujours un petit peu à cela, mais en tuant d'abord les pauvres et donc les illettrés, la famine participe à la hausse du taux d'alphabétisation globale de la population, de façon peut-être, c'est en tout cas l'hypothèse qui a été développée par Mary Daly en 1986, de façon peut-être plus efficace finalement que le système scolaire. Après la langue, deuxième point, la religion. Et est-ce qu'on peut parler d'une révolution de la dévotion ? Alors, c'est l'hypothèse, c'est la thèse développée par l'historien américain Emmett Larkin en 1972, un article fameux. Donc, après le choc de la famine, il estime que notamment entre 1850 et 1870, le catholicisme a agi comme refuge spirituel, comme principale référence identitaire, collective, davantage donc, que la langue et la culture gaélique, en déclin, terrassé donc par la famine. La famine, selon Larkin, joue donc un rôle central pour expliquer cette révolution de la dévotion, qu'il caractérise à l'aide de données quantitatives et qualitatives. Alors, voilà. L'assistance, d'abord, donner quelques données quantitatives, l'assistance à la messe, qui augmente, chaque semaine à la messe, hebdomadaire, qui augmente fortement, 40% des gens potentiellement, enfin qui pourraient aller à la messe, c'est-à-dire des catholiques en âge d'y aller et en bon état quand même, 40% en 1830, 95% en 1890, donc on a une augmentation très forte. Le nombre de prêtres, le nombre de nonnes aussi, ici je m'en tiens au nombre de prêtres, augmente d'un pour 3000 en 1840 à un pour 1560 habitants en 1871. Larkin souligne aussi une évolution qualitative des pratiques, depuis qu'on passe d'un catholicisme assez souple, un peu hétérodoxe, vers une pratique plus orthodoxe, plus romanisée, là où, par exemple, les fêtes ou les rituels païens se mêlaient souvent aux cérémonies catholiques, la liturgie, la discipline romaine s'imposent de plus en plus, par exemple lors des veillées funèbres, sous l'influence notamment de l'archevêque Paul Cullen, dont on a parlé ce matin, qui est archevêque entre 1850 et 1878, et qui est aussi le premier cardinal irlandais, à partir de 1866. Donc la famine est au cœur du processus de révolution de la dévotion, selon Larkin, pour au moins deux raisons, pour résumer. La transformation des mentalités, des croyances serait liée au choc même de la famine. La famine considérée comme punition divine, donc après, désormais, on respecte davantage le dogme et les recommandations de l'Église, pour éviter une nouvelle catastrophe. Et puis, une explication plus sociale, les habitudes religieuses plus orthodoxes, on va dire, des classes les moins décimées par la famine, donc classe moyenne, ou gros fermier ou fermier moyen, finalement ces habitudes-là vont s'imposer mécaniquement après la famine, puisque toujours la classe des cottagers, la plus attachée aux pratiques anciennes, est celle qui disparaît quasiment. Alors bon, il y a eu des limites, des nuances qui ont été apportées à la thèse de Larkin, sans toutefois l'infirmer. Alors, j'ai mis trois noms, vous retrouverez dans la bibliographie leurs travaux, Sean Connolly, Donald Kerr ou Nigel Yates. En gros, ce qu'ils disent, c'est que dès la fin du XVIIIe siècle, finalement, le recul des pratiques pagano-chrétiennes aurait été déjà là, donc plus précoce, une plus grande précocité. Et Cullen est vu plutôt comme un consolidateur, finalement, d'un processus qui avait déjà été engagé par ses prédécesseurs. Dernier point, politique et nationalisme, les conséquences politiques et nationalistes. Alors là, je vais dire seulement deux mots, parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais à court terme, donc la famine, on vient de le voir, a eu un effet dévastateur sur le mouvement national. accélérant en particulier la dislocation de la Repeal Association, qui n'était déjà pas très bien au début de la famine. Mais si cette dynamique nationaliste a été brisée pendant au moins une dizaine d'années, ensuite les références aux projets, aux modalités d'action aussi des acteurs de la génération de la famine ont été très souvent convoquées par les mouvements nationalistes qui se recomposent après 1870, hein, depuis les Fenians, puis le Land League, le Home Rule, le nationalisme culturel. On parle de tout cela. J'ajoute que dans la seconde moitié du XIXe siècle, le groupe des fermiers, devenu socialement plus homogène, j'y reviens toujours, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, hein, ce groupe-là se montre très réceptif au discours de Parnell, par exemple, qui, dans les années 80, lui-même, identifie largement, et plus facilement finalement, la cause nationale à celle de ce groupe qui forme désormais la colonne vertébrale de la société irlandaise. Les nationalistes de la famine en exil aussi ont joué un rôle déterminant dans le développement du sentiment national hors d'Irlande, bien sûr. Et puis enfin, la mémoire de Mitchell ou des martyrs de 1848 a aussi été mobilisée dans la construction du roman national irlandais à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on en parlait hier avec Peter, et au XXe siècle. Donc j'en arrive justement à ce XXe siècle. Quelles références, quels usages de la famine, quelle place pour la grande famine dans les mémoires, quelle place a-t-elle occupée, quelle place occupe-t-elle dans les mémoires, les imaginaires, en Irlande et aussi dans la diaspora. Quelques pistes seulement, et mon hypothèse de travail est la suivante. Entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, il y a un double mouvement qui s'opère. On observe d'une part donc, l'élaboration raisonnée d'un discours nationaliste qui s'impose au XXe siècle, sans toutefois jamais devenir parfaitement consensuel ni absolument uniforme, mais bon, il y a quand même ça qui se construit d'un côté. Et d'autre part, en marge de ce récit de la famine, existe une mémoire diffuse, une mémoire par en bas, on pourrait dire, qui témoigne d'un rapport sensiblement différent à la catastrophe et à son souvenir, et je vais revenir là-dessus. Et je vais aussi évoquer, au pas de course, trois points, c'est beaucoup plus de temps, qui me permettront trois notions très importantes qui font débat, voire qui posent problème, dont on a déjà parlé aujourd'hui pour certaines, hein, le génocide, le silence, le trauma. Premier point d'abord, donc, la mémoire publique, pour reprendre l'expression de l'historien James Donnelly, où j'ai remis son nom ici, et la thèse génocidaire. Alors, Donnelly a retracé la genèse de ce qu'il nomme la mémoire publique de la Grande Famine, élaborée dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec pour matrice donc, ce récit, en partie autobiographique, du révolutionnaire en exil, John Mitchell. J'ai remis le nom de son ouvrage donc, principal, même s'il y en a d'autres, hein, « The Last Conquest of Ireland, Perhaps », publié en volume la première fois en 1860. Mitchell décrit la famine comme un des pires épisodes de l'oppression britannique. Il affirme que les Anglais sont non seulement responsables de la famine, mais aussi coupables donc, d'avoir sciemment affamé les Irlandais, alors qu'ils avaient la possibilité de ne pas le faire. L'une de ses formules les plus célèbres, hein, vous la connaissez, je n'insiste pas là-dessus. En tout cas, ce qui est important quand même, c'est que ce qui me paraît très important, c'est que cette version de Mitchell s'impose dans l'État libre d'Irlande à partir de 1922, et dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les écrits de Mitchell servent d'appui à ceux qui désormais, puisque le mot existe, qualifient la Grande Famine de génocide. Cette thèse génocidaire reparaît notamment aux États-Unis dans les années 1990, où des campagnes sont menées pour inclure la Grande Famine dans des programmes d'enseignement dédiés à l'étude comparée des génocides. Certaines de ces campagnes avec succès, comme dans l'État du New Jersey. Des initiatives, enfin c'est mon point de vue là, mais qui est partagé par pas mal de personnes, qui doivent être davantage comprises comme des actes politiques et identitaires que comme des prolongements dans l'espace public de travaux d'historiens. Car dans le champ scientifique, les termes du débat ne sont pas exactement les mêmes. Et pour la plupart des historiens, la question de l'intention criminelle est soit absente, soit indémontrable dans le cas de la Grande Famine. Et dans une formule qui a fait date, vous pouvez réutiliser dans vos copies, Peter Gray préfère parler de négligence coupable des autorités qui a tragiquement amplifié ensuite les effets d'une catastrophe écologique majeure. Ceci dit, le débat n'est toutefois pas tranché aujourd'hui, hein, il y a encore des débats, on pourrait y revenir si vous voulez. Deuxième point, deuxième débat, la mémoire populaire et le silence, le fameux silence. Alors, dans le même temps où s'élaborait une mémoire militante, hein, donc nationale, inspirée par Mitchell et d'autres porte-parole, il n'est pas tout seul évidemment, un voile pudique aurait été posé sur le souvenir de la tragédie. Dans le débat public et dans l'historiographie, c'est particulièrement vrai au moment du 150e, ça a été prêt, en 1995, il a souvent été avancé que le poids du traumatisme collectif aurait conduit à une forme de silence dans la société irlandaise, notamment dans les milieux populaires. Honte de se souvenir qu'on a été réduit à l'état de bête sauvage, culpabilité d'avoir survécu ou d'être descendant de survivants, voire même d'avoir profité par la suite donc, de la disparition des plus faibles. Au milieu des années 1990, alors même que ce constat du refoulement, du silence ne semblait pas faire question, il y a un historien qui s'appelle Neil Ockeson, en fait, difficile à dire en français, voilà. Lui s'interroge et pour lui, si ce silence, si silence il y a eu, hein, il est davantage venu des sources, les victimes, on le disait aussi ce matin, et leurs descendants ont laissé peu de traces écrites, plus donc des sources, le silence, que des protagonistes eux-mêmes. Et donc c'est finalement ce vide documentaire ne permet pas de conclure au silence des acteurs, et encore moins à l'oubli ou au refus de parler. De plus, ajoute-t-il, il existe une source, une ressource, hein, qui est trop négligée, qui est en tout cas pas beaucoup exploitée encore, peu exploitée, qui sont les archives de la tradition orale, folk memory. On dispose en effet de la transcription de centaines d'entretiens hein, recueillis auprès des descendants des contemporains de la famine, en anglais ou en irlandais, dans le cadre d'une grande collecte d'enquêtes menées, alors j'ai mis le nom aussi par l'Irish Folklore Commission, dans les années 1930 et 1940. Alors, bien sûr, cette source est problématique, elle est à manier avec précaution, bon, on ne va pas faire une méthodologie, il faut faire très attention, mais avoir à l'esprit surtout qu'est-ce qu'on peut chercher dans ces documents-là. Ces témoignages nous informent en priorité sur le souvenir de la famine dans la société irlandaise de la moitié du XXe siècle, après, du milieu du XXe ou un peu avant. Elles nous informent donc plus sur ce qui est passé que sur ce qui s'est passé. Et ils confirment aussi ces témoignages qu'à travers le temps, quelque chose est bien passé. Et si la parole n'a pas surgi d'elle-même dans l'espace public, dès lors qu'on l'a sollicitée, elle s'est largement exprimée. Et le contenu de ces milliers de pages, donc, ébranle largement la thèse du silence et de l'oubli généralisé. Alors, on peut certes repérer des silences, et notamment, il n'est quasiment jamais question des grands noms, en particulier des membres du gouvernement, ou de Charles Trevelyan, très, très peu présent, qui sont pourtant les cibles privilégiées du grand discours nationaliste élaboré dans le sillage de Mitchell. Et de fait, ce qui nous est livré, ou plutôt, est plutôt une mémoire de la détresse, de l'horreur, presque toujours centrée sur le local, sur le familier, la mort est partout. Les récits sont marqués, très marqué par la résignation face au dessein de la Providence, justement, même si l'indignation et le ressentiment contre un landlord cruel ou un fermier profiteur trouvent aussi leur place. Tout comme, chose intéressante, la violence entre Irlandais, entre pauvres, qui est totalement absente du récit national, car elle ne cadre pas avec la trame unitaire du récit national. La famine y apparaît aussi comme un phénomène à la fois physique et métaphysique. Le surnaturel, c'est pour ça, ça rend d'ailleurs assez difficile le travail sur ces documents-là. Le surnaturel, le religieux, apprennent les témoignages et permettent de donner du sens, finalement, à l'inexplicable. Et l'ensemble forme cette structure, une structure narrative très particulière, dans laquelle les canons du récit national et du récit nationaliste sont relégués quand même assez largement à l'arrière-plan. Donc ça nous donne une autre perspective sur la mémoire de la catastrophe. Dernier point, rapidement, commémoration et trauma. Alors, l'enquête réalisée par l'Irish Folklore Commission en 1945 est l'une des rares initiatives qui a été proposée pour marquer le centenaire de la Grande Famine. De fait, l'Irlande de 1945-1947 semblait peu disposée à mobiliser le souvenir de la tragédie dans le présent de la commémoration. La pauvreté, alors que la pauvreté était toujours le quotidien pour beaucoup d'Irlandais, le pouvoir irlandais a choisi de ne pas trop raviver le souvenir des temps difficiles. Cette discrète commémoration du centenaire contraste avec l'effervescence qui accompagne le 150e de l'événement, en République d'Irlande en particulier. Manifestations officielles, inauguration de monuments, expositions, conférences, émissions à la radio, à la télévision... intéressant d'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver en passant par Internet. Avalanche de nouveaux titres en librairie aussi, d'où la grosse bibliographie que vous avez aujourd'hui. Pendant quelques mois, entre 1995 et 1997, l'espace public commémoratif a été presque saturé par la Grande Famine, avec cette fois l'impulsion directrice et le financement donné par la puissance publique, par l'État. Alors il y a de très nombreuses manières d'envisager, d'expliquer, de comprendre ce phénomène. Là, je ne vais développer rapidement qu'un seul aspect, la question du traumatisme. Et rapidement, on pourra reparler après si vous voulez. Les pouvoirs publics, les grands médias nationaux, mais aussi des intellectuels, des artistes, ont insisté sur les vertus thérapeutiques de la commémoration, qui devait faciliter, en brisant le silence, le fameux silence, favoriser la guérison d'un traumatisme qui rongerait l'Irlande depuis le milieu du XIXe siècle. Alors, si on se replace du point de vue de la psychopathologie, parce que le mot traumatisme a un sens précis, le choc traumatique individuel, d'abord c'est quelque chose d'individuel, qui survient sans préparation psychique, c'est une expérience d'effroi dont les effets douloureux se prolongent dans le temps, qui provoque des phénomènes de blocage, d'amnésie, qui perturbent notamment la mise en mots de l'événement traumatique. Alors, si la famine est incontestablement un événement qui a laissé en Irlande des traces, des blessures profondes, et mon propos n'est pas de minimiser cela, pas du tout. En revanche, l'importation, je dirais presque sauvage, du langage de la psychanalyse à l'histoire nationale ne va pas de soi. En tout cas, elle doit être mise en débat, je crois. Et pourtant, ce vocabulaire a investi l'espace public irlandais sans susciter dans un premier temps beaucoup de réactions, et il a été notamment largement utilisé dans le temps de la commémoration. Alors depuis quelques années, certains historiens, c'est le cas de Cormac O'Grada, Peter Gray et Neil O'Cashion aussi, critiquent un usage peut-être abusif de cette notion de trauma pour qualifier les perturbations provoquées par la famine. Leurs interrogations se cristallisent en particulier autour de deux points. Premièrement, la dimension collective du traumatisme. Est-il pertinent d'affirmer qu'un peuple entier, oui, Irish, en a été victime, alors même que les historiens ont bien montré que les individus et les groupes sociaux qui composent ce peuple irlandais ont pu vivre des expériences très différentes pendant la famine. Donc il y a ce premier questionnement-là. Deuxième questionnement, la durée, qui est peut-être le plus fort, la durée de vie d'un traumatisme. Qui décrète, comment peut-on établir qu'un siècle et demi après la catastrophe, l'Irlande du milieu des années 1990 est toujours traumatisée par la Grande Famine? Je pense que cette question mérite d'être posée. En guise de bilan, donc pour terminer, je dirais que s'il est important de préciser les choses et de nuancer, c'est-à-dire la Grande Famine n'a pas été également décisive dans tous les domaines, socio-économiques, culturels, politiques, on ne doit jamais perdre de vue le niveau de lecture plus global. La Grande Famine a bien constitué une rupture historique majeure et pas un simple accélérateur de tendance. Et contrairement à ce qui arrive assez souvent, si on regarde d'autres épisodes de disette, voire de famine, la société d'après n'est pas revenue à son état ou à sa situation d'avant. Et du point de vue de la démographie en particulier, c'est évidemment l'exemple le plus frappant, il n'y a pas eu de rattrapage. Et le changement de direction a été radical et il a été durable jusqu'au moins le milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, quelle actualité pour la Grande Famine ? Son souvenir imprègne toujours l'imaginaire irlandais et dans la diaspora. On le voit notamment à travers les arts et la littérature, dont il aurait fallu que je parle, mais je n'ai pas fait. Mais c'est important, il ne faut pas perdre de vue ça aussi dans la transmission et le souvenir. Elle suscite aussi, la Grande Famine, des recherches toujours. Elle provoque des débats, des polémiques. Bref, les références à la Grande Famine sont bien présentes. Elles sont présentes dans les mémoires depuis longtemps et dans l'espace public depuis au moins deux ou trois décennies. Merci.